Je vous emmène avec moi, en van, sur les routes d'Europe de l'Est, à la découverte de l'ailleurs, de nouvelles saveurs et des personnes croisées en chemin. Les livres m'ont toujours nourri et inspiré, et c'est bien pour cela que je ne m'imaginais tout simplement pas partir sans eux. À la façon d'une boussole, j'emporte dans mon sac à dos les livres d'auteurs et d'autrices originaires des pays parcourus, comme pour m'aider dans ma quête. Si ça vous tente qu'on fasse la route ensemble, alors laissez-vous emporter par les jours nomades. Chapitre 2. Une grande âme pour un petit pays. Je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à aller écouter le prologue et le chapitre 1 des Jours Nomades sur radioprimitive.fr avant de revenir ici pour écouter le chapitre 2. Voyageuses et voyageurs des ondes, merci de faire la route avec moi aujourd'hui. Pour ce voyage en Slovénie, Anne-Lise, la libraire de la Belle Image, que vous connaissez bien maintenant si vous avez écouté l'épisode 1 des Jours Nomades, m'avait recommandé de lire l'ouvrage « Cette nuit, je l'ai vu » de Drago Jančar, édité par Libretto. Ce livre retrace l'histoire d'un couple bourgeois assez peu conventionnel pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à cette nuit de janvier 1944 où le couple disparaît. C'est sûr et certain que je lirai ce livre qui m'avait donné très envie, mais en attendant, j'ai pu trouver un autre livre qui parlait de la ville de Ljubljana et plus largement de la Slovénie. C'est un roman qui s'appelle Ljubljana, écrit par Brina Zvit. Il a été publié par la maison d'édition L'Arbre qui marche dans la collection Premier Voyage. Et c'est très intéressant parce que ce livre, il prend la forme d'un guide de voyage, mais on a vraiment l'impression d'être dans un roman. Sauf qu'à la fin, il y a des itinéraires pour apprécier la ville autrement, des petits détails chiffrés sur la ville qu'on va visiter. C'est très très bien fait, je vous invite à vous pencher sur la question. Et Brina Zvit, elle est née à Ljubljana elle-même, donc en 1954. Moi, je ne la connaissais pas avant, mais c'est sûr, ça m'a vraiment donné envie de lire ses romans, pour le coup. Et c'est une femme écrivaine qui s'est installée à Paris depuis 1980. J'ai vu des interviews d'elle, elle se qualifie vraiment comme une parisienne. Elle aime la vie à Paris, mais elle l'écrit au départ en slovène, avant de choisir le français comme langue d'écriture. Elle est romancière, journaliste, scénariste, elle explore les questions d'identité, d'exil. Là, de ce que j'ai pu percevoir dans ce roman, c'est amusant parce qu'elle est assez sans filtre. Elle se livre, il y a quelque chose d'un peu introspectif. C'est très agréable. Et donc, globalement, elle est publiée chez Gallimard et elle a reçu plusieurs distinctions littéraires. Pendant mon voyage en Slovénie, je me suis vraiment appuyée de ce livre-là pour justement aller sur les traces de ce qu'elle nous livre dans son récit et puis découvrir tous les petits détails cachés de la ville. Ça m'a vraiment aidée à comprendre l'âme de Ljubljana et puis aussi comment elle a pu se changer en fonction de l'histoire et évoluer pour être ce qu'elle est à présent. Nous sommes actuellement en Slovénie, on a passé la frontière hier après quelques péripéties. Et donc là, on longe la rivière de Soča, qui est connue pour avoir une couleur turquoise, verte, émeraude. C'est très joli. Et on se dirige vers la ville de Kobarid. Avant d'arriver ici, comme je le disais, on a eu quelques péripéties. En fait, on est passé par le col de San Pellegrino. Et c'est un col qui est connu pour être extrêmement pentu et on ne l'a pas du tout fait en frein moteur. Ça crée une friction et donc il a commencé à avoir de la fumée. On a senti une odeur de plastique brûlé. Donc c'était un peu angoissant. On s'est retrouvé à aller dans un garage en bas du col et un très gentil garagiste a vérifié les freins en disant que tout allait bien mais que c'était quelque chose de courant dans ce col-là. Vous saurez, si vous passez par ce col, c'est assez dangereux à ce niveau-là. Thank you. voyant la Socha, on peut en fait penser que c'est simplement un paysage paradisiaque, c'est magnifique, comme je le disais quand on marchait à côté. Mais en fait, c'est le lieu d'une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. C'est quelque chose dont on prend vraiment conscience quand on visite le musée de Kobarid, qui est très bien fait. En fait, il y a plusieurs pièces qui reprennent un peu l'histoire du conflit, de ses débuts à son aboutissement. Et en fait, il faut bien comprendre que tout au long de cette rivière, il y a eu 12 offensives au total qui se sont succédées entre l'armée italienne et l'armée austro-hongroise. Et donc, des centaines de milliers de soldats ont combattu sur ces montagnes, dans les tranchées et sous les bombardements. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était de comprendre en fait le rôle des Slovènes. À l'époque, la Slovénie, il faut bien comprendre qu'elle n'existait pas comme un État indépendant. Et donc les Slovènes, ils faisaient partie de l'Empire austro-hongrois. Et quand la guerre éclate, ils sont mobilisés dans l'armée impériale et beaucoup se retrouvent à défendre leur propre vallée contre les troupes italiennes. Et en fait, je trouve que ça change complètement le regard qu'on peut porter sur cette rivière, parce que la Socha, c'est plus seulement une des plus belles rivières d'Europe, mais c'est aussi et surtout un lieu où l'histoire du XXe siècle s'est écrite dans les tranchées. D'ailleurs, quand on se balade à côté, on voit encore les tranchées qui ont été réhabilitées. C'est assez bouleversant. Et donc aujourd'hui, on attend la navette pour visiter le Memorial Church of the Holy Spirit de Javorka. Cette église, elle est très particulière. L'autrice du livre que j'ai lu avant d'arriver en parle en disant que c'est quand même un des lieux un peu incontournables et pourtant pas si touristiques. Et cette petite église, elle est perdue dans la forêt. Une fois qu'on a terminé le chemin, il faut encore marcher 20 minutes pour y arriver. Et elle a été construite en 1916, donc en plein pendant cette Première Guerre mondiale. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle a été construite par des soldats de l'armée austro-hongroise. Elle n'était pas destinée à célébrer une victoire, mais au contraire à rendre hommage aux soldats tombés au combat. Et donc, on n'est pas dans quelque chose de grandiloquent pour montrer qu'on est les plus forts, etc. En fait, non seulement c'est un lieu de recueillement, mais c'est aussi un symbole de paix. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on va voir, je pense, en arrivant dans l'église. Apparemment, il y a le mot paix qui est gravé sur le fronton. Donc, on ira regarder ça. Donc là, ça fait 15 bonnes minutes qu'on monte. On est un peu essoufflé. C'est vraiment une montée à pic. C'est court, mais c'est intense. Et en face de nous, la petite église, très petite en fait, au-dessus d'une rangée d'escaliers en pierre. Et entre deux sommets rocheux, il y a des échafaudages, donc je pense qu'elle est en rénovation. On a réservé une visite pour 15 heures, donc on verra ce qui nous attend. C'est difficile de décrire ce qu'on voit en entrant, mais je vais essayer. En fait, on franchit ces marches en pierre et on se retrouve pris par la couleur bleue qui émane de toute l'église. Il y a des motifs assez géométriques, la symétrie est très présente. Une des plus belles œuvres, je trouve, dans cette église, c'est qu'en face de moi, j'ai deux immenses anges. C'est en fait ces anges, ils ont le visage de la femme de l'architecte qui a pensé cette église avec les soldats, évidemment. Et donc Brina, dans son livre, elle explique que l'architecte en question, c'est Remigius Gelling. Je suis pas sûre de bien dire son nom. Il était lieutenant de cette 3e brigade de montagne, architecte, peintre, scénographe. Et elle explique qu'il est ami de Klimt. Bon, j'ai demandé au guide de l'église qui me dit qu'en fait, ils n'étaient pas forcément particulièrement amis, mais qui se connaissaient parce qu'ils venaient de la même école.
This Remigius Gelling was giving instructions, this artist, and he was painting. He painted the most beautiful part, and he was giving instructions how to paint all these details for soldiers. I guess he made some model to paint.
And did you know why he chose this blue? This
well,
white blue?
There could be many possible reasons. If you ask me, I'm quite a long time here, so I see them as heavenly colors. You see the stars, the sky, and it's a big contrast here between this light of the sky, these colors, and this color of earth. These are things which last, which are eternal, and these are things which perish, which are past. And this is everything with human life for every country, every empire.
Là, le livre de Brina mentionne en fait 2565 soldats de différentes nationalités et religions. C'est très important de le dire parce que c'est vrai que c'était pas que des catholiques, bien au contraire, il y avait des juifs, des musulmans. Mais en fait, les soldats qui ont créé ça, ils étaient tous d'accord pour faire un lieu de souvenir qui soit pas spécialement lié à la religion catholique. Et ça, c'est beau aussi parce que c'est un symbole d'unité. Et puis, c'est quand même incroyable que ce lieu ait survécu à la Deuxième Guerre mondiale. En fait, malheureusement, elle a été un peu laissée à l'abandon, alors que c'est, je pense, la plus belle église que j'ai vue de toute ma vie. Je reviens pas d'être là et je suis trop contente d'avoir pu me rendre sur les traces de ce qu'expliquait Brina dans son livre. Nous sommes enfin arrivés à Ljubljana, la capitale de la Slovénie, et je vous parle depuis un endroit qui n'est pas commun du tout, puisque c'est un des emblèmes de cette capitale. Il s'agit de la place Perensen, qui a été érigée non pas en l'honneur d'un homme politique ou d'un combat, mais fait plutôt inhabituel, en l'honneur d'un poète, monsieur donc Perensen. En fait, ce poète, il est né en 1800 dans l'Empire austro-hongrois. Brina, elle mâche pas ses mots. Elle nous dit que c'est un pauvre type, qu'il a abandonné ses enfants, qu'il a voué une espèce d'admiration complètement déplacée à une jeune fille de 20 ans, sa cadette. Et paradoxalement, c'est cette obsession qui lui a fait écrire un poème qui s'appelle La Corona et qui est une des formes donc les plus exigeantes qui soient apparemment. Et en fait, ce n'est qu'après sa mort que ses compatriotes ont redécouvert ce poème-là. Et ça en a fait comme un trésor. Ça a permis à leur langue, jusqu'alors pas très reconnue, de s'ériger comme une langue sophistiquée. Brina nous indique quelque chose d'assez curieux. Elle nous explique que dans le dos de la statue se trouve, selon, alors là je vais sûr me tromper dans son nom, Marko Pogačnik, qui était donc sculpteur et géomancien. Ce monsieur, il a fait plusieurs études pour déterminer des points de vibration dans différentes grandes villes du monde entier. Et il indique que ici, là où on peut vraiment sentir ce qu'on appelle un point d'éternité, il se trouve dans le dos du poète. Bon, j'adorerais vous dire que j'ai ressenti quelque chose de vibrant et d'énergétique en étant derrière le dos de ce poète en bronze. Mais la vérité, c'est que j'ai rien ressenti. Donc peut-être que je ne me suis pas assez concentrée, mais je ne peux que vous conseiller d'essayer à votre tour et de me dire si oui ou non vous avez senti un point énergétique. Là, on est sur le pont de... Oh mon Dieu, je vais me tromper dans toutes les prononciations des noms, c'est sûr. Plečnik. On est sur le pont de cet architecte qui a repensé toute la ville de Ljubljana après un séisme. Lui, il était déjà connu, il avait déjà fait ses armes un peu partout dans le monde. Et il est revenu comme le fils prodige en Slovénie et à Ljubljana pour repenser la ville. Et donc, on est sur son triple pont. C'est vrai que c'est assez atypique comme type de pont. C'est chouette. Enfin, je dis ça, j'ai aucune compétence en architecture, hein, donc c'est peut-être un peu scandaleux. On se retrouve ce matin, toujours à Ljubljana. On a passé la nuit dans un parking un peu excentré de la ville. Et ce matin, donc, on est en face de la maison de Plečnik, dont je parlais hier, qui est l'architecte qui a pensé une grande, grande partie de la nouvelle Ljubljana. Donc on a pris une visite guidée et on va voir ce que ça donne. J'essaierai d'enregistrer des petits bouts, je vais voir si c'est possible.
So this room almost looks like a monk's cell. And I'm mentioning this because this is kind of how Plečnik saw himself as a monk. You know, he was celibate, obviously. He was also very religious. He lived very humbly from day to day. So he ate simple food, wore simple clothing, and so on. He did collect a lot of things. He did spend money, but you know, not on his day-to-day personal life. And also, he devoted all of his time and energy to his calling, to his craft. So that's kind of how his inner world would look like.
On sort à l'instant de la visite dans la maison de Plečnik Et je suis tellement contente d'y être allée. C'était génial parce qu'on n'était que tous les deux. Il était 10h du matin. On avait la guide pour nous tout seuls. On a appris tellement de choses sur cet architecte avec une personnalité tellement forte, un peu savant fou sur les bords. C'est quelqu'un qui était addict à son travail et qui, dans tous les aspects de l'architecture de sa maison, faisait en sorte de consacrer son temps au travail. Que rien ne soit trop confortable, parce que le confort, ça encourage la paresse, et que donc, il fallait que ça soit efficace. Son lit, il l'est construit plus petit que sa taille réelle, parce qu'il ne voulait pas, encore une fois, être trop confortable. Le bureau, il fait deux fois la taille du lit, c'est pour vous dire. En fait, il avait quand même, en plus du travail et de l'architecture, il était très religieux. Il n'accordait aucune place à une potentielle vie de famille, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de femme, pas d'enfants, un lit, une place qui laisse peu de place à des suppositions sur une potentielle vie sexuelle. Assez peu d'amis donc. Comme il était très connu, il avait parfois de la visite, les gens voulaient lui parler dans un contexte professionnel. Et en fait, il avait une petite salle pour les recevoir et il a créé un banc volontairement pas confortable avec une assise trop profonde pour qu'ils n'arrivent pas à vraiment bien s'installer dedans, un peu en pente pour qu'ils glissent et surtout avec un trou dans le plafond au-dessus. Donc comme ça, quand il neigeait, qu'il pleuvait, il se prenait la flotte ou la neige dessus. Et aussi, l'été, une chaleur de dingue. Donc c'était vraiment pas un endroit pour proposer aux gens de rester. Il tire son inspiration de l'architecture italienne, notamment des Romains. On comprend en fait que son obsession avec les colonnes, ça vient de là. Dans le livre, Brina, elle explique qu'apparemment, il ne s'imaginerait pas vivre dans une ville qui ne comporte pas de colonnes.
Just as your opinions, if we have to see one place designed by him here, Ljubljana, what could it be?
There's so many.
Like two or three, max.
Okay. If you can, the inside of the library. It's really beautiful, lots of little details to uncover. Like, he also liked playing with light. So for example, in the library, the downstairs is very dark. But then as you're going up the stairs towards knowledge, you're becoming enlightened and it gets lighter. So that's just one little thing.
Okay, yeah. Thank you very much.
Of course.
Là, on se dirige vers la bibliothèque et on arrive devant le petit café dont Brina nous parle, qui est ce qu'elle appelle une de ses zones érogènes. Elle explique qu'on a tous, d'une façon ou d'une autre, dans nos villes de cœur, certaines zones érogènes, c'est-à-dire des endroits qui nous procurent beaucoup de plaisir sans qu'on ait à faire beaucoup d'efforts. Et pour elle, cette place-là de la Révolution, où se trouve le petit café, en est une. Donc voilà, ça me donne envie de vous demander quelles sont vos zones érogènes dans les villes que vous aimez. Ça m'intéresse. Je me suis posé la question pour ma part et c'est pas si facile d'y répondre, d'avoir comme ça un endroit qui nous vient en tête. Donc là, on est dans la bibliothèque que la guide de la maison de Plečnik nous a recommandé de visiter. Bibliothèque pensée et designée par Plečnik lui-même. Quand on entre dans la bibliothèque, on est frappé par l'obscurité et des immenses piliers en marbre noir. Et en fait, le but, c'est, comme elle l'expliquait, de passer de l'obscurité à la lumière. Donc on monte un escalier en marbre noir et on arrive dans cette pièce immense, très lumineuse, avec notamment un rayonnage au-dessus des escaliers que nous, on n'a pas pu franchir. Un très très bel endroit, en tout cas, empreint d'une forme de piété, comme un lieu sacré, quoi. Après quelques péripéties hier, si vous êtes un membre de la radio primitive, vous pouvez passer jusqu'à à peu près une minute et revenir après. J'ai perdu le micro que la radio m'a prêté pour ce podcast dans Ljubljana. Voilà, évidemment, j'ai pleuré. On a refait tout le trajet à pied pour essayer de le trouver. Finalement, on l'a enfin retrouvé. C'est un gars qui organisait une compétition de voler dans la rivière. Donc il y avait un énorme événement avec ce monsieur avec le micro, etc. Et c'est lui qui l'a retrouvé. Improbable, en tout cas très 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 soulagé que cette mauvaise surprise soit derrière moi. Et là, on est samedi matin et on se retrouve au marché de Ljubljana parce que Brina, elle nous explique dans son livre que une des meilleures façons de connaître une ville et son atmosphère, c'est d'aller, un, au marché, deux, au cimetière. Donc je ne sais pas si on aura le temps et l'envie d'aller au cimetière, mais en tout cas, le marché, on pouvait faire, c'était dans nos cordes. Il y a pas mal de fleurs, de fruits et légumes. Il est énorme, ce marché. Beaucoup de primeurs, du jus de pomme frais, du fromage aussi. Ils ont un fromage de vache traditionnel, donc fromage vendu aussi sur place. Et beaucoup, beaucoup de fleurs, de champignons. C'est vraiment impressionnant, c'est très vivant. Je pense qu'on va s'arrêter pour y prendre un café à un moment donné. Et chose intéressante à noter aussi, c'est que donc là, on est à l'extérieur du marché où on retrouve les colonnes de Plečnik. Il y a aussi un marché couvert. Donc on va aller voir ça parce qu'apparemment, au niveau de l'architecture, ça vaut le détour aussi. On a quitté Ljubljana hier et on s'apprête à rejoindre la Croatie cet après-midi. Mais je m'imaginais pas partir de la Slovénie sans aller me balader dans la forêt de Rog, qui est une forêt incroyable, qui abrite notamment des ours. Apparemment, il y en a 1900 au total. On peut les amadouer avec des pommes et des poires si on les croise, mais j'ai ni pommes ni poires, donc j'espère n'en croiser aucun. Et pourquoi est-ce que je voulais aller dans cette forêt ? C'est parce que dans son livre, Brina nous parle d'un lieu assez extraordinaire qui s'appelle Baza 20, donc la base 20. Pour y arriver, il faut passer par un chemin un peu escarpé pendant une trentaine de minutes à peu près. Et là, on se retrouve toujours au cœur de la forêt. Mais en fait, Baza 20, c'est le siège politique et militaire du mouvement de la libération slovène. Et il faut comprendre, en fait, toutes ces baraques ont été construites au printemps 1943. Il y en a 26 au total. Et ces baraques, elles sont toutes numérotées dans l'ordre de leur construction. Il y avait à peu près 140 personnes qui vivaient ici, de la résistance, et elles servaient à la fois de dortoir, de siège de réflexion politique, enfin pour asseoir des décisions politiques. Il y avait un hôpital, une salle d'opération, évidemment donc des dortoirs pour les malades, une cuisine, une salle à manger. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'il y avait même un théâtre en plein air avec une scène, des gradins. En fait, c'est toute une micro-société qui s'est recréée ici en 1943. Mais ce qui est vraiment profondément marquant, c'est le silence qui règne ici. En fait, le côté très majestueux de ce que peut être une forêt, mais empreint de toute l'histoire qu'il y a derrière ce lieu. Mais en fait, c'est dingue de se dire qu'il y avait des peintres, des poètes, des comédiens, des musiciens. Il y avait même une danseuse aussi, enfin, qui vivait là, qui était résistant et qui sont restés là. Et nous, on est en train de se balader entre les baraquements et on ouvre les portes, on voit ces lits, on voit ces explications, ces photos, ces traces de documents. C'est tellement fort que c'est difficile à décrire. Je me permets de citer Brina, c'est page 31. Elle dit « Il faut dire qu'il y a peu d'endroits en Slovénie où l'on sente avec autant de force ce que ça veut dire de mener une guerre de libération contre une armée surpuissante pour un petit peuple de 2 millions, sans armes, sans rien. » Juste avec un esprit de révolte et de résistance, de débrouillardise aussi et de courage, et de la gagner, de se libérer pratiquement tout seul. Voilà, moi je n'ai rien à ajouter, mis à part que c'est des lieux qui me mettent les frissons, quoi. Je ne sais pas si vous croyez aux esprits ou à ce genre de choses, mais je suis persuadée qu'il doit y avoir des esprits dans ce lieu. C'est pas possible autrement, franchement, c'est tellement puissant. Je vois pas de meilleur endroit pour vous dire au revoir pour cet épisode. Et vous l'aurez compris, donc ce titre de l'épisode est très révélateur de tous les lieux qu'on a visités jusqu'à maintenant. Et il y a plusieurs fois où vraiment j'ai eu des frissons, des larmes aux yeux, des émotions, parce qu'en fait c'est un combiné de nature, d'un endroit avec des paysages exceptionnels, presque oniriques, et en parallèle, toute cette histoire-là qui est tellement puissante, tellement marquante. Donc je ne peux que vous encourager à y aller. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir fait la route avec moi. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes des Jours Nomades. Si tu as aimé faire partie du voyage le temps de cet épisode, alors n'hésite pas à retrouver les Jours Nomades sur radioprimitive.fr. C'était Louise pour les Jours Nomades. Chapitre 1. Merde, non, c'est chapitre 2. Et là, on longe actuellement la rivière de Sochka. Socha. Et là, on longe actuellement la rivière de Sochka. J'y arrive pas. Vas-y, redis.
Socha.
On est passé par le col de San Pellegrino pour arriver à... Ah, mais tu m'as déconcentré.
Non, ça va faire quand tu l'as dit. San Pellegrino,
bah c'est Philippe qui le dit comme ça.